Gloire à toi, Seigneur. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, nous ne pouvons pas rester les mêmes personnes. Si nous sommes vraiment dans la présence de Dieu, quelque chose de très profond se passe en nous, n'est-ce pas vrai? Mais si nous restons toujours les mêmes, c'est une preuve que nous n'avons pas vraiment été dans la présence de Dieu. Mais lorsque nous sommes dans sa présence pour l'adorer, pour le bénir, il nous dit après, « Eh bien maintenant, va, je t'envoie. Je te donne une mission. » Nous sommes appelés à être des adorateurs, mais nous sommes aussi appelés à être des ambassadeurs, n'est-ce pas vrai? Il faut qu'il y ait ce parfait équilibre dans notre vie. Nous sommes des adorateurs, mais nous sommes aussi des ambassadeurs. Ce que Dieu nous donne dans sa présence, nous ne pouvons pas le garder pour nous. Nous ne pouvons pas. C'est pourquoi nous avons une responsabilité. Nous sommes des adorateurs, mais aussi des ambassadeurs. Ce que nous recevons dans sa présence, nous devons l'apporter à d'autres. Des multitudes meurent. Que le Seigneur puisse nous façonner afin de faire de nous des ambassadeurs qui le glorifient. Et je voudrais justement voir ce matin avec vous comment être utilisé par le Seigneur. Comment être utilisé par le Seigneur? L'homme, la femme que Dieu utilise doit remplir certaines conditions. Il y a toujours une préparation avant que Dieu nous envoie pour une mission précise, toujours. Comment donc être utilisé par Dieu? C'est ce que nous allons voir. Et nous allons prendre l'exemple d'un homme dans les Actes des Apôtres que l'on retrouve à plusieurs reprises et qui nous montrera comment Dieu utilise quelqu'un. De rien du tout, Dieu peut faire de quelqu'un une bénédiction. Et nous allons prendre l'exemple de Barnabas. Barnabas, dans les Actes des Apôtres, tout spécialement, est un très bon exemple. Nous allons voir tout son cheminement. À plusieurs reprises, il est parlé de Barnabas. C'est l'homme des missions difficiles. Chaque fois que, dans l'église primitive, il y avait une mission spéciale, cette mission était confiée à Barnabas. C'est un homme extraordinaire dans le Nouveau Testament. On n'en parle pas beaucoup. Il y a Paul, Pierre, Jean qui passe au premier plan. Et il en est ainsi dans l'Église. Certains ministères sont plus en vue que d'autres, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas enlever ces choses. Mais il y a une chose que nous ne devons jamais oublier. C'est que si, même si nous n'avons pas un ministère en vue, cela ne veut pas dire que notre ministère n'a pas de valeur aux yeux de Dieu. Ce serait une très grande erreur de penser que parce que notre ministère n'est pas en vue, que nous ne sommes pas un Paul, un Pierre, un Jacques, un Jean, un Philippe, que Dieu ne peut pas nous utiliser. C'est une très grande erreur. Dieu a utilisé un Barnabas. Apparemment, il n'était pas grand-chose. Mais nous voyons dans cet homme le désir ardent de plaire à son Dieu et d'être un authentique ambassadeur et d'être utilisé par son Sauveur. Nous allons lire le premier passage où l'on parle de Barnabas, c'est dans les Actes des Apôtres, au chapitre 4 et au verset 36 et 37. Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 36 et 37. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas. Son nom était Joseph et Barnabas était son surnom. Ce qui signifie fils d'exhortation, ou on peut encore traduire fils d'encouragement, de consolation. Le mot ici veut dire quelqu'un qui exhorte, qui encourage et qui console les autres. Il était aussi lévite. Lévite, c'était un lévite. Originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Rien que là déjà, nous découvrons quelques beaux traits de son caractère. Nous lirons après, au fur et à mesure qu'on avance, quelques autres passages encore où on parle de lui. Mais j'aimerais qu'on s'arrête déjà maintenant sur quelques pensées très importantes. La première pensée, celle-ci, c'était que donc Barnabas était un lévite. C'était un lévite. Alors premièrement, notez cette première qualité, ce premier caractère qui était en lui, parce qu'il était lévite. En tant que lévite, il avait décidé d'être fidèle devant Dieu dans les moindres choses. Voilà une qualité qui a touché les apôtres et une qualité qui a été remarquée par le Seigneur. En tant que lévite, il avait décidé d'être fidèle devant Dieu dans les moindres choses. Vous savez que le travail des lévites était un travail caché. Le travail des sacrificateurs était le travail visible. C'était le sacrificateur qui offrait les sacrifices, qui se tenait devant le peuple. C'était le travail des sacrificateurs. Mais le travail des lévites, c'était un travail caché. Qu'est-ce qu'il faisait le lévite, entre autres? Entre autres, il devait garder le tabernacle parfaitement propre. Il devait laver par terre. Il devait ouvrir et fermer les portes. En somme, il devait faire la police. C'était le travail des lévites. C'était l'homme qui était là, sur lequel on pouvait compter pour être fidèle dans les moindres petites choses. Dans les plus petits détails, Barnabas était là, il voyait tout. Il observait tout. Plus petites choses qu'il y avait à voir, à revoir ou à encourager, ses yeux étaient partout. Pour encourager, pour consoler, pour exhorter et pour faire du bien. Voilà une première qualité extraordinaire, je trouve, dans la vie de Barnabas. Si nous voulons que Dieu nous utilise, nous devons commencer toujours par le commencement, mes amis. Si nous sommes fidèles dans les petites choses, Dieu nous en confiera des... J'ai noté cette pensée ici. Sans Dieu, rien n'est grand. Et avec Dieu, rien n'est petit. Sans Dieu, rien n'est grand, mes amis. Si Dieu n'est pas dans ce qu'on fait, même si ce qu'on fait est grand, ça n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. Mais si l'on fait quelque chose pour le Seigneur, avec le Seigneur, il n'y a rien de petit avec lui. Amen. Il n'y a rien de petit. C'est comme l'Éternel qui a voulu utiliser Gédéon. Israël était dans la captivité pendant des années. Et Dieu vient vers Gédéon et lui dit, « Vaillant soldat, l'Éternel est avec toi. » Alors Dieu dit, « Mais vaillant soldat, vaillant soldat, mais je suis rien du tout. Ton peuple est dans l'esclavage. Et moi-même, je suis le plus petit de toute la maison. » Je suis le dernier de ma famille. Comment est-ce que tu m'appelles vaillant soldat? Dieu ne regardait pas l'apparence. Il regardait au cœur. Car Gédéon était le seul à ce moment-là à réagir contre l'esclavage d'Israël. Le peuple d'Israël avait baissé la tête, se courbait devant l'ennemi, fuyait devant l'ennemi. Mais Gédéon, lui, il était là. Il cachait de la nourriture que l'ennemi voulait prendre. Il cachait ça dans un endroit précis. On pourrait lire ce passage, mais je ne voudrais pas m'attarder là-dessus. Mais on voyait par là que Gédéon ne voulait pas se laisser avoir par l'ennemi. Il ne voulait pas que l'ennemi prenne toute la nourriture qu'il devait nourrir, le peuple de Dieu. C'était un homme en réaction contre l'ennemi. C'est pourquoi l'Éternel l'appelle vaillant soldat. Vaillant soldat, c'est toi qui vas délivrer le peuple d'Israël. Il n'était rien du tout. Et c'est parce qu'il n'était rien du tout que Dieu l'a utilisé. Amen. Bien souvent nous disons, mais je ne suis rien du tout. Je n'ai pas beaucoup d'intelligence, je ne sais pas beaucoup parler. Quand on considère ma famille, on n'est rien du tout dans la famille. On est plutôt une famille qui est ignorée, méprisée. On est les plus pauvres, les plus insignifiants. Est-ce que Dieu peut faire quelque chose avec nous? Et nous pensons que Dieu ne veut pas nous utiliser parce que nous provenons d'une famille modeste ou que nous n'avons pas les capacités intellectuelles ou autres pour faire quelque chose. Non, mes amis. Ce n'est pas cela que Dieu regarde. Dieu regarde et cherche des hommes et des femmes qui soient fidèles à la tâche que Dieu veut les confier. Amen. Voilà ce qu'il attend. Dieu te dit et Dieu me dit, mais peu m'importe moi, mais le fait que tu ne saches pas beaucoup bien parler, le fait que tu n'aies pas beaucoup de capacités, cela n'a aucune importance à mes yeux. Ce que je veux te dire, c'est ceci. Est-ce que je peux te confier une mission? Est-ce que je peux compter sur toi pour être comme un Lévite, fidèle dans les moindres choses? Car avant que Dieu nous confie de grandes choses, mes amis, il faut que nous apprenions à être fidèles dans les petites choses. Amen. Il y a cette pensée extraordinaire que j'aime beaucoup. Si nous voulons que Dieu nous utilise, c'est l'esprit d'un ambassadeur, l'esprit d'un vrai serviteur. Nous devons faire les choses extraordinaires d'une manière ordinaire. Et les choses ordinaires, nous devons les faire d'une manière extraordinaire. Je répète cette pensée qui est très importante, qui peut bouleverser notre vie, notre façon de travailler. Nous devons faire les choses extraordinaires. Autrement dit, les grandes choses que Dieu peut nous demander, les choses extraordinaires, nous devons les faire d'une manière ordinaire. Dans l'humilité. Et les choses ordinaires, les petites choses que Dieu nous demande, nous devons les faire d'une manière extraordinaire. De tout notre cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes. Alléluia! Combien de fois la parole de Dieu nous dit, faites tout comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Pas seulement en parlant du prédicateur, mais en parlant aussi de chacun d'entre nous, des serviteurs, des servantes, dans leur travail de tous les jours. Tout ce que nous avons à faire doit être fait comme pour le Seigneur. Amen. Vous ne travaillez pas premièrement pour un patron, vous travaillez premièrement pour le Seigneur. Si nous pensons que nous travaillons pour un patron humain, terrestre, nous allons voir ses défauts. Et on ne mettra pas longtemps pour voir ses défauts. Pour cela, pour voir les défauts, on est toujours spécialiste. On en voit toujours plus qu'il en faut aussi. Alors on verra toujours ce qui ne va pas. C'est pourquoi la parole nous exhorte et nous dit, faites tout comme pour le Seigneur et non pour les hommes. C'est du Seigneur que vous recevrez la récompense. Les hommes peut-être ne vous récompenseront pas comme il le faudrait. Mais Dieu, lui, vous récompensera. Alléluia. C'est pourquoi même le plus petit travail de bureau, d'atelier, le plus petit travail que l'on puisse faire à la maison, quand il est fait pour le Seigneur, c'est un travail qui honore Dieu, qui glorifie Dieu. Alléluia! Et c'est le premier test par lequel nous passons, mes amis. C'est le premier test. Lévite. En tant que Lévite, très, très à cheval sur les petites choses. Il ne passait pas par-dessus. La preuve, c'est que les apôtres ont vu cela. C'est les apôtres qui ont surnommé Joseph Barnabas. Ils l'ont observé. Ils l'ont observé pendant des jours, des mois. Ils l'ont observé. Ils ont vu que ce Joseph n'était pas comme les autres. Il y avait quelque chose en lui. On le voyait toujours. Soit en train de mettre une chaise qui était de travers, la mettre de côté, bien droit. Quelque chose qui était tombé, ramassé, mettre en place. Une petite mémé dans un petit coin qui était un peu découragée. Ils ont vu à combien de reprises voir Joseph s'approcher de cette mémé qui pleurait. « Ma chère maman, ne te décourage pas. Le Seigneur est avec toi. Ne te décourage pas, ça ira mieux. Dieu va faire concourir toutes choses pour votre bien. Ne vous découragez pas, ne te décourage pas, maman. » Les apôtres ont vu cela. Et une autre fois, c'était près d'un jeune homme, découragé aussi. Barnabas voyait tout. Tout! Il n'y avait rien qui était insignifiant à ses yeux. Il ne courait pas à la prédication. Mais il était là, dans les moindres détails. Et il consolait, il encourageait, il édifiait les uns et les autres. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? Caché, sans que personne le voie. Mais il y en a un qui le voit. Amen. Il y en a un qui le voit. Ne l'oublions pas cela. Bien souvent, notre travail à nous est influencé par ce qu'on voit. Il faut qu'on nous voie pour faire quelque chose. Sinon, ce n'est pas intéressant, c'est pas intéressant. Il faut que tout le monde sache ce qu'on a fait. Il le faut, sinon on ne fait rien du tout. Il était lévite. Les moindres détails étaient importants. Il était caché, on ne le voyait pas. Mais finalement, ça se sait quand même. Amen. Même si c'est caché, les apôtres ont quand même vu. Et surtout, le Seigneur l'a vu. Ils l'ont surnommé fils d'encouragement. C'était une expression à ce moment-là qui voulait dire justement que c'était quelqu'un qui en lui-même avait ça. Il aimait encourager, exhorter, édifier. Il était là. Ça ne veut pas dire qu'il disait oui, amen à n'importe qui, attention. Parce qu'il devait exhorter aussi parfois, autrement dit, dire peut-être certaines choses qui ne plaisaient pas toujours, mais c'était toujours dans le but d'élever, de relever, d'édifier, de fortifier, d'encourager. Alléluia! Toujours dans ce but-là. C'était toujours dans le but de construire et non de détruire. Si dans tout ce que nous faisons, notre but est de construire, mes amis, alors Dieu nous utilisera. Amen! À dire parfois même certaines paroles difficiles. Mais puisque nous avons ce désir d'encourager, d'édifier, de consoler, Dieu nous utilisera. Et nous serons ainsi une bénédiction pour les autres. Amen. Gloire au Seigneur. Lévite. Fidèle dans les moindres choses. Que le nom du Seigneur soit béni. Allons un peu plus loin maintenant. Deuxièmement, deuxième pensée, toujours avec cette pensée du Lévite, il était fier de faire tout ce travail caché parce qu'il le faisait pour Dieu. Voilà une pensée. Je l'ai donnée un tout petit peu tout à l'heure, mais je voudrais qu'on la note maintenant parce qu'elle est importante. Il était fier de faire tout ce travail parce qu'il le faisait pour le Seigneur. Il le faisait pour Dieu. Pour Dieu. Pour Dieu. Soyons conscients que nous sommes tous appelés à servir Dieu d'une manière ou d'une autre. Personne ne peut dire qu'il n'est pas appelé. Si tu fais tout ce que tu fais pour le Seigneur, c'est un appel de Dieu. Alléluia! Et il y aura une promotion. Dieu verra cela. Il y aura une promotion de la part de Dieu. Je vous l'assure. Vous aurez peut-être l'impression de tourner en rond. Vous aurez l'impression peut-être que personne voit et tout. Détrompez-vous. On ne recherche pas ces choses. Mais Dieu lui-même, en son temps, il conduira plus loin. Alléluia! Parce que quelqu'un qui a une telle passion en lui de glorifier Dieu dans sa vie et d'être une bénédiction aux autres, Dieu ne peut pas laisser cette personne comme cela. Faire du surplace, ce n'est pas possible. Et vous allez voir, Barnabas n'a pas fait du surplace. Il faisait tout, il était fier de faire ce travail. Fier. Il n'y avait aucun travail humiliant pour lui. Humiliant. Aucun travail humiliant. En fait, bien souvent pour commencer, Dieu, hein, ça commence toujours comme cela. Celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Mais il n'y a rien qui nous arrêtera si nous sommes prêts à faire les choses comme pour le Seigneur. Amen. Troisième caractère de Lévi. Donc, deuxième caractère, c'était, il était fier de faire tout ce travail caché parce qu'il le faisait pour le Seigneur. Pour le Seigneur. Il était fier. Peu importe la réaction des hommes, des femmes, peu importe qu'ils soient acceptés ou refusés, peu importe, il le faisait pour Dieu. Amen. Ça, c'est très important. Dans le service, on n'est pas toujours accepté. Dans ce qu'on fait pour le Seigneur, on n'est pas toujours récompensé tout de suite. On est bien souvent même rejeté. Regardez Jésus. Regardez les apôtres. Humainement, si on regarde le travail des apôtres ou du Seigneur, c'est un échec. C'est un échec. C'est un échec. Mais Dieu n'a jamais dit son dernier mot. Et nous devons être prêts à travailler, quels que soient les résultats, parce que nous le faisons pour le Seigneur. Amen. Pour le Seigneur. Pour plaire au Seigneur. Et pour avoir son approbation dans notre vie. Que le nom du Seigneur soit béni. Troisième caractère, il avait décidé d'encourager les autres. Ils l'ont surnommé le fils d'exhortation ou le fils d'encouragement. Il avait décidé, donc voilà le troisième caractère, il avait décidé d'être quelqu'un qui encourage les autres. Et soulignez bien, il avait décidé, soulignez bien le verbe décider, c'est très important. Car dans ce domaine-là, comme dans tous les domaines, il y a des décisions qui doivent être prises. Avez-vous décidé d'être un chrétien qui portera des fruits? Avez-vous décidé d'être un chrétien qui glorifiera Dieu dans sa vie? Avez-vous décidé que rien ne vous arrêtera dans le service du Seigneur? Que rien ne vous arrêtera? Et que vous irez jusqu'au bout? Est-ce que le maître peut vous confier une tâche? Est-ce que vous serez fidèle à cette tâche? Peut-il vous confier des missions impossibles, des missions délicates? Peut-il confier sur vous? Bien souvent, que de chrétiens commencent bien, vous êtes d'accord avec moi? Que de chrétiens, et même des pasteurs, des serviteurs de Dieu, qui ont bien commencé, et à un moment donné, ils dévient complètement. Découragés, ou alors on tombe dans des fausses doctrines, et on commence à faire des choses qui déshonorent Dieu. Est-ce que Dieu peut compter sur vous? Est-ce que Dieu peut compter sur moi? Il avait décidé d'être un homme, une femme, qui serait fidèle à ce ministère. Avez-vous pris des décisions? Malheureusement, il y en a qui prennent la décision de ne jamais rien décider. Avez-vous remarqué ces gens-là? Ils prennent la décision de ne pas prendre de décision. Ah oui, j'espère. J'espère que ça va aller, que Dieu va m'utiliser. Alors quand tout est merveilleux, quand tout va bien, quand Dieu a exaucé leurs prières, enfin, où ils ont été guéris, où ils ont été bénis, voilà, ils ont eu, voilà, la paie a augmenté, alors on est content. Oh là, merci Seigneur, la paie a augmenté. Quinze jours après, le patron commence à faire la tête, l'opposition commence à se manifester, Nous n'avons pas toujours les récompenses qu'il faudrait, qu'on mériterait. Et nous commençons à rouspéter. Et nous commençons à dire, mais c'est pas possible. Si ça continue, ça pourra pas durer comme ça, c'est pas possible. Alors, il y a quelque temps, on était là, on allait dépasser, on allait tout transformer. Et puis un mois après, deux mois ou un an après, il n'y a plus rien du tout. Pourquoi une telle attitude? C'est que bien souvent, ces personnes-là n'ont pas décidé de prendre la bonne décision, de servir le maître, quoi qu'il en coûte. Amen. De servir le maître, quoi qu'il en coûte, et d'être fidèle à la tâche que Dieu vous a confiée. Sommes-nous fidèles à la tâche que Dieu nous confie? Mais vous dites, je ne sais pas ce qu'il m'a donné pour le moment. Quand tu ne sais pas ce qu'il t'a donné, la bonne façon de bien commencer, c'est de faire déjà tout ce qui est en ton pouvoir. Être fidèle dans les moindres petites choses. Fais ce que déjà on te demande à faire. Fais les petites, plus petites choses qui sont faciles à faire. Fais-les. Fais ce qu'on te demande à faire. Sois fidèle. Le Seigneur, voyant cela, te prépare, te forme et te conduira plus loin. Amen. Moi, j'ai découvert mon ministère, ou si vous voulez, ce que Dieu avait pour moi quand j'ai commencé à donner ce que j'avais. À obéir quand on m'a demandé de faire quelque chose. Parfois, je n'ai pas toujours obéi tout de suite, ça, il faut que je le dise. Quand j'étais dans l'école biblique, là-bas, le directeur, il me demandait de faire ceci, cela. C'est-à-dire que j'obéissais quand ça me plaisait. Pour certaines choses, j'obéissais, mais pour d'autres, je faisais la tête. Ça a duré un temps, mais après, le Seigneur a commencé à me dire, « Hé, Sam, si tu veux maintenant aller plus loin, la comédie est terminée. Tu peux pas. Tu es dans une école biblique, c'est bien, mais les choses sérieuses, maintenant, vont commencer. Tu peux pas. On te demande de faire quelque chose, que ça te plaise ou pas, tu dois le faire. Sinon, je ne pourrais jamais t'utiliser. Je ne pourrais pas te demander quelque chose. » Et c'est là que j'ai commencé à voir la rébellion de mon cœur. Et c'est pas possible. Seigneur, non. Je veux pas seulement obéir quand ça me plaît, mais je veux aussi obéir quand ça me déplaît. Je veux obéir, tout simplement. Et j'ai vu que là, Dieu était en train de me tester. C'était l'obéissance. Il a voulu. Et il a fait tout cela pour m'apprendre à obéir. M'apprendre à obéir. Et je bénis le Seigneur pour ces moments-là. Je bénis le Seigneur. De ce que je n'ai pas été rebelle en disant non, non, là, je veux, là, j'obéirai jamais. J'avais la tête dure, mais quand même à la fin, j'ai craqué. J'ai dit, Seigneur, quand même, que ta volonté soit faite et non la mienne. Mais il y en a malheureusement, alors quand ils s'entêtent, on ne pouvait plus rien faire avec eux. C'est décidé, c'est terminé. Alors là, bien sûr, Dieu ne peut plus rien faire. Mais si nous sommes disposés à faire sa volonté, même si ce n'est pas toujours facile, Dieu nous conduira plus loin. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il était décidé. Êtes-vous décidé à être fidèle quand tout va bien et aussi quand tout se dresse contre vous? Êtes-vous décidé à aller jusqu'au bout? Peut-il vous confier? Il y a un chant que l'on chantait dans le temps qui disait « Dieu, peut-il compter sur nous? Dieu, peut-il compter sur toi? Oui, tu peux compter sur moi, car je peux compter sur toi. Seigneur, tu peux compter sur moi, car moi, je veux compter sur toi. Être fidèle jusqu'au bout. » Mais là, ce sont des points importants. Sinon, vous nous ferons du surplace. Comme les enfants d'Israël, ils ont mis 38 ans pour traverser le désert. 38 ans! Vous croyez que c'était la volonté de Dieu? Si vous regardez une carte, normalement, en 3 semaines, ils devaient faire la traversée du désert. 3 semaines! Ce n'était jamais le plan de Dieu qu'Israël reste 38 ans dans le désert. Jamais. C'était 3 semaines. Le plan de Dieu, c'était qu'ils aillent en Canaan, qu'ils détruisent les géants et qu'ils prennent possession de ce pays merveilleux où coule le lait et le miel. Alléluia! Mais le lait et le miel se trouvaient derrière la maison d'un géant. Il fallait détruire le géant pour aller manger le lait et le miel. Et parmi cette multitude, seulement 2 sont rentrés. Josué et Caleb. 2 hommes seulement. Et tous ceux qui ont rouspété ne sont pas rentrés. Non, 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 on ne peut pas tuer ces géants. Les Anakim sont là-bas. Les Anakim, ce sont les fils de géants. Ils faisaient plus de 3 mètres. Alors naturellement, quand ils ont vu tous ces géants, les espions ont eu peur. Ils étaient 12 espions, il y en avait 10 qui avaient peur. Non, non, jamais, on ne peut pas. On va tous mourir. Et ils sont venus faire un rapport à Moïse qui a mis la crainte dans le peuple d'Israël et qui a déshonoré Dieu. Mais il y en avait 2, Josué et Caleb, qui ont dit « Non, 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 le pays que l'Éternel nous donne est un bon pays !» Il y a des Anakim, c'est rien du tout ça. Mais Dieu sera avec nous et nous détruirons ces Anakim, ces géants. Et cela a plu à l'Éternel. Ces 2 hommes sont rentrés avec leur famille, mais tous ceux qui ont murmuré sont morts dans le désert. Ils sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas décidé d'aller jusqu'au bout. Ils ont commencé à voir les Anakim et ils ont eu peur. Nous ne devons pas regarder aux géants, mes amis. Il y a quelqu'un qui est plus grand que les géants, c'est notre Dieu. Alléluia! Dieu est plus grand que les Anakim. Dieu est plus grand que nos épreuves. Dieu est plus grand que nos difficultés. Dieu est plus grand que nos persécutions. Dieu est plus grand que toutes les incompréhensions. Dieu est plus grand! Dieu est plus grand! Parce qu'ils étaient animés d'un autre esprit, il est dit, de Josué et Caleb. Ceux-là entreront dans la terre de Canaan. Mes amis, soyons animés d'un autre esprit. Décidez d'aller jusqu'au bout, en comptant sur lui, bien sûr. Mais vous serez étonnés de voir ce que Dieu peut faire dans votre vie. Quand je vois tout ce que Dieu a fait dans ma vie, je suis humilié. Je vois combien c'est la grâce de Dieu. Mais si nous en sommes là où nous en sommes aujourd'hui, c'est uniquement parce que nous avons pris la décision d'obéir, quoi qu'il en coûte, et nous irons jusqu'au bout. Même s'il fallait mourir, nous sommes prêts à donner notre vie. Ce n'est pas une consécration comme cela quand tout va bien, quand Dieu ouvre les yeux des aveugles, ou il fait marcher les paralytiques. Nous sommes prêts à donner même notre vie pour le Seigneur. Rien ne nous arrêtera. Il faut que je puisse dire au Seigneur, « Seigneur, j'ai fini la mission que tu m'as donnée. Mission terminée. Mission terminée. » Et je veux entendre cette parole, cela va bien. Bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai des grandes. Alléluia. Est-ce que le Seigneur pourra dire cela de toi? Ne te décourage pas, sois décidé, allez jusqu'au bout. Cherche à plaire à ton Dieu et non pas à plaire aux hommes. Ne cherche pas à plaire aux hommes, tu ne pourras jamais plaire à tous les hommes. Jésus qui était parfait n'a pas pu plaire à tous. Cherche à plaire à ton Dieu. À quoi cela sert-il d'avoir l'approbation des hommes autour de toi si tu as la désapprobation de Dieu dans ta vie? À quoi sert l'approbation des hommes qui ne sont rien du tout? À quoi sert leur approbation quand tu sais que dans ton cœur tu as la désapprobation divine? Ne te décourage pas, Barnabas. Il avait décidé d'être un homme qui irait jusqu'au bout. Soyons décidés, mes amis. Si nous sommes décidés à aller jusqu'au bout, Dieu sera décidé à nous utiliser. Amen. Pouvez-vous être un homme, une femme à qui Dieu peut confier une mission et qui puisse vous faire confiance jusqu'au bout? C'est très important. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas utiliser certaines personnes trop sentimentales ou quand tout va bien, alléluia, gloire à Dieu, mais quand l'épreuve arrive, il n'y a plus personne, c'est fini. Oh, il trouve toujours une excuse. Ah, les excuses, on en trouve toujours. Mais finalement, c'est parce que dans le cœur, on n'est pas prêt à passer sous la croix. On n'est pas prêt à prendre la croix et le suivre. Jésus lui-même a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive, qu'il me suive. À un moment donné, quand Jésus parlait ainsi, plusieurs de ses disciples l'ont quitté. Tout le monde disait, mais ces paroles sont dures, qui peut les entendre? Et Jésus voyant ses disciples, entre guillemets, s'en aller, ses disciples, entre guillemets, s'en aller. Il s'est adressé aux apôtres en disant, « Et vous, ne voulez-vous pas partir non plus ?» Nous voyons par là que Jésus ne cherchait pas à plaire ni à ses apôtres, ni à ses disciples, ni à qui que ce soit. Vous avez vu? Vous le remarquez? Il cherchait à plaire à personne. Peu importe tes conséquences, Que ce soit la bénédiction ou le rejet, peu importe. Jésus faisait ce que son Père lui demandait. Il était dans la parfaite volonté de Dieu et rien ne pouvait l'arrêter. Il avait le sourire approbateur de son Père dans sa vie. C'était la chose la plus importante. Et la pierre s'est écriée, « Seigneur, Maître, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Pierre a décidé d'avoir la bonne réaction à ce moment-là. Il a fait une faute après. Mais Pierre n'est pas resté sur sa faute. Il n'est pas resté sur sa faute. Ça nous arrive de faire des fautes, ça m'arrive aussi, ça vous arrive à n'importe qui. Dieu n'utilise pas des hommes et des femmes parfaits, mais des hommes et des femmes obéissants. Obéissants. Et Pierre a désobéi une fois, mais il ne pouvait pas rester dans cette désobéissance. Quand il a renié son maître, il est dit qu'il pleura, il sortit et pleura amèrement. Jésus le vit de loin. Pierre a désobéi, a renié son maître, mais il n'était pas insensible. Il n'a pas été comme Judas qui a su qu'il avait renié le maître et qu'il avait fait quelque chose de très mal. Et par orgueil, il est allé tout de suite se pendre. Il a dit, c'est fini pour moi maintenant, il n'y a plus d'espoir. J'ai livré le sang innocent. Ce n'est pas possible, Dieu ne peut plus rien faire avec moi. Ce n'est pas vrai. Si Judas était retourné auprès du Seigneur, dans la repentance, le Seigneur lui aurait pardonné. Car au moment où Judas, quand nous lisons les évangiles, Judas est arrivé avec toute la troupe, armée de bâtons et d'armes. Judas avait dit, « Celui que je baiserai, c'est celui-là. Saisissez-le. » Quand Jésus s'est approché, Judas s'est approché, ils se sont rencontrés. Les paroles de Jésus à son traître étaient celles-ci. « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Il l'a pas appelé mon ennemi. Et pourtant, il avait décidé déjà. L'ennemi était déjà là, mais il l'a appelé mon ami. Comme pour dire, je sais que ce que tu fais est mal. Tu t'es tourné contre moi, mais je t'aime encore. Il y a encore un espoir pour toi. Tu as été très loin. Tu as été trop loin, mais il y a encore un espoir. Judas n'a pas saisi cet espoir-là. Il n'a pas saisi. Cette occasion que Dieu lui donnait, mon ami, il l'appelait mon ami, non pas mon ennemi. Regardez l'amour du Seigneur, la patience du Seigneur. C'est quelque chose qui nous étonne, n'est-ce pas vrai? C'est quelque chose qui nous dépasse, la patience de Dieu. Mais attention, la patience de Dieu un jour aura ses limites. Nous ne pouvons pas jouer avec la patience. Un jour, ce sera terminé. C'est pourquoi, alors que l'Esprit de Dieu nous parle, alors que Dieu nous parle, nous devons tout faire pour mettre nos vies en règle avec lui. Et ne pas faire comme Judas, qui par orgueil a dit « c'est fini maintenant, j'ai livré le sang innocent ». Il pensait qu'il n'y avait plus de pardon pour lui. C'est faux. S'il était retourné dans la repentance et les larmes, comme Pierre, il aurait été pardonné, mais il ne l'a pas fait. Tandis que Pierre, il avait la tête dure. Pierre était le premier à faire toutes les bêtises. Il était le premier en tout, Pierre. Le premier à dire les bêtises et le premier à dire des paroles extraordinaires. Il était le premier en tout. Il était le premier en tout. Il était le premier à dire des choses extraordinaires. C'est lui qui a eu la révélation. Tu es le Fils de Dieu. Et Jésus lui a dit, ce n'est pas toi qui a compris ça de ta tête. C'est mon Père qui est dans le ciel qui te l'a révélé. Et tout de suite après, voyez-vous, il a dit une parole que personne d'autre n'a pu dire parce qu'il a été inspiré par le Saint-Esprit. Et tout de suite après, quand Jésus a commencé à parler de la croix, et qu'il a dit maintenant. Parce que justement, Pierre venait d'avoir cette révélation que Jésus était le Fils de Dieu. Vous le remarquez, à quel moment Jésus a commencé à parler de ses souffrances, de ses persécutions, de son rejet à ses disciples? Seulement quand ses disciples ont eu la révélation qu'il était le Fils de Dieu, pas avant. Sinon, ils n'auraient pas pu supporter. Sinon, ils l'auraient abandonné. Ils n'auraient pas pu le suivre. Jusqu'à la croix. Et patiemment, le Seigneur les a conduits jusqu'à ce qu'ils aient cette révélation qu'il est le Fils de Dieu. À ce moment-là, Jésus leur dit, eh bien, le Fils de l'homme va être livré entre les mains des pécheurs. On le rejettera, on lui crachera au visage, il sera humilié, on le crucifiera. Mais le troisième jour, il ressuscitera des morts. Pierre lui dit, « Cela ne t'arrivera pas, Seigneur !» Et quelle a été la réponse de Jésus? Vous le savez comme moi, « Arrière de moi, Satan! Tes paroles ne sont que des pensées humaines !» Et pourtant, quelques minutes avant, Pierre était inspiré par le Saint-Esprit et disait une parole glorieuse. Et quelques minutes après, il disait des paroles affreuses. Mais Pierre a su reconnaître ses erreurs. Il a su s'humilier. Et c'est ce que Dieu nous demande, mes amis. Amen. C'est ce que Dieu nous demande. Quand cela nous arrive de faire une faute, ne pas, par orgueil, nous bloquer et dire c'est fini maintenant. Cet échec, il y en a qui ne peuvent pas supporter l'échec. Si nous ne supportons pas l'échec, c'est que l'orgueil est en nous. Si nous ne supportons pas l'échec, c'est que nous avons besoin justement de passer par un échec cuisant pour que ce brisement se fasse en nous et que nous soyons prêts à servir le Seigneur et à le suivre dans les bons comme dans les mauvais jours, dans la bénédiction comme dans la persécution. Pierre était cet homme-là. Et quand il s'est relevé, il s'est humilié. Mais quand il s'est relevé, qui a pu l'arrêter? Plus personne n'a pu l'arrêter. D'un lion qu'il était, Jésus en a fait un agneau, il l'a brisé. Mais d'un agneau, il en a fait aussi un lion. Vous vous rappelez quand il était le jour de la Pentecôte, des milliers étaient là. Lui qui avait renié le maître, mais il avait été rempli du Saint-Esprit. Il avait expérimenté la grâce, le pardon de son maître. Et vous savez ce qu'il a dit devant la foule qui était là? Vous avez renié le saint et le juste. Vous vous rendez compte? Lui qui avait renié le Seigneur, il dit aux autres maintenant, vous l'avez renié. Il ne s'est pas mis dans le nombre là. Pourquoi il ne s'est pas mis dans le nombre? Parce que Dieu lui avait pardonné, c'était terminé. Son problème était terminé. Il avait cru au pardon de Dieu. Et aux yeux de Dieu, il n'était plus celui qui l'avait renié. Il était pardonné et libéré de cette culpabilité. Le pardon est une puissance qui libère. Amen. Et ensuite, il a pu s'écrier devant la foule, « Vous avez renié le saint et le juste. » C'était un nouvel homme, lui. Amen. C'était un nouvel homme. C'était un nouvel homme. Parce qu'il avait cru au pardon de Dieu, qu'il avait complètement libéré de cette culpabilité. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Il avait décidé. Décidez, êtes-vous décidé d'aller jusqu'au bout? Êtes-vous décidé d'obéir à sa parole jusqu'au bout? Pas seulement quand ça vous plaît, mais au passage, qui vous dérange aussi, êtes-vous prêt? Êtes-vous décidé? Sinon, tôt ou tard, il y aura toujours une occasion de chute. Tôt ou tard, il y aura une occasion de chute pour vous. Et cette épreuve révélera le fond de votre cœur. Ou vous serez brisé à ce moment-là et vous direz, Seigneur, j'ai assez résisté, je m'humilie, je te demande pardon, mais je veux t'obéir. Ou alors vous vous endurcirez et vous vous éloignerez du chemin, comme beaucoup le font malheureusement. Que le Seigneur nous fasse la grâce de rester humbles, que dans ces épreuves, ces tests, nous restions brisés à ses pieds et obéissants, quoi qu'il en soit. Amen. Voilà qui était Barnabas. Barnabas, alléluia. Gloire au Seigneur. Couche maintenant. Voilà. Oui, alors une autre qualité encore. Une autre qualité. Acte 11, verset 23, on l'a envoyé pour une mission spéciale, c'était à Antioche. Là, les premiers chrétiens, certains juifs, ont parlé du Seigneur à des païens, à des gentils, des païens. À ce moment-là, les juifs chrétiens ne parlaient qu'aux juifs. Mais là, certains ont parlé à d'autres qui étaient à Antioche. C'était une mission un peu difficile. Et pas mal de ces gens à Antioche, tout ça, ont cru au Seigneur Jésus. Parce que jusqu'à présent, les juifs chrétiens étaient entre eux. Et là, il est allé, on l'a envoyé, c'était une mission difficile, c'était la première fois que ça arrivait. Corneille aussi était là, avec Corneille, Pierre est allé avec Corneille aussi. Mais là, c'était donc ces gens, ces païens. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, envoyons Barnabas. Vous voyez, on peut, si vous voulez, on peut lire dans Acte 11, 23. Peut-être qu'on peut lire ce passage. Acte 11, 23. Donc,
Il y eut cependant parmi eux quelques hommes, verset 20 déjà, de Chypre et de Cyrène, qui étaient venus à Antioche, s'adressant aussi aux Grecs, c'étaient les Grecs, et ils leur annoncèrent la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Voyez-vous, et le bruit, verset 22, en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. C'était une situation difficile. Et qui est-ce qu'ils ont trouvé? Barnabas. Barnabas, une mission difficile, Barnabas est là. Il est préparé. Vous serez étonnés de ce que Dieu vous prépare. Le travail que Dieu vous donnera plus tard dépend de votre obéissance aujourd'hui, mes amis. Il y en a qui attendent de faire quelque chose de grand quand Dieu leur montrera. Mais mes amis, le travail que Dieu te donnera dans le futur commence maintenant. Dépend de ta fidélité maintenant. Dépend de ton obéissance maintenant. N'attends pas de faire un grand travail dans le futur quand tu es désobéissant dans le présent. Et alors, ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche, verset 23. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Il s'en réjouit et les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Amen. Car c'était un homme de bien, plein de Saint-Esprit et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Voyez-vous, il s'en réjouit. C'était un homme qui, cette qualité, vous pouvez la noter maintenant, quatrièmement. Donc, c'est un homme qui s'est réjoui du succès des autres. C'était d'autres qui avaient prêché l'évangile, et il a vu le succès, et il s'est réjoui. Voilà une qualité très importante dans un serviteur de Dieu, dans une servante, savoir se réjouir du succès des autres. Et malheureusement, peu de serviteurs ou de servantes ont cela. Quand on voit les autres bénis, on est jaloux. Et on doute de la bénédiction. On dit, ça, c'est pas vrai. C'est pas la vraie bénédiction. C'est un feu de paille, ça durera pas. Voyez-vous, c'est l'orgueil qui est là en nous. Mais Barnabas, il s'est réjoui. Alléluia, il s'est réjoui. Si tu veux avoir du succès, réjouis-toi du succès des autres. Si tu ne te réjouis pas du succès des autres, de la bénédiction des autres, Dieu ne pourra pas te bénir, toi. Avant que tu aies du succès toi-même, réjouis-toi du succès des autres. Alléluia, réjouis-toi. Il s'en réjouit. Quelle belle qualité, vous ne trouvez pas? Quelle belle qualité. Quelqu'un qui se réjouit du succès des autres, vous pouvez l'envoyer partout. Il n'est pas jaloux, il n'y a rien qui l'arrête. Bien souvent, nous, quand Dieu nous envoie quelque part, ça passe difficilement à un endroit. Ouh là là. Là, vous voyez la bénédiction, vous êtes tellement orgueilleux, tellement imbu de vous-même, que vous en êtes malade, vous faites une dépression. Seigneur, pourquoi es-tu béni les autres et pas moi? Regardez quoi. Quelle tragédie! Mais Barnabas s'était préparé, il a vu ça, gloire à Dieu, mais c'est merveilleux. Savoir se réjouir des autres est la porte qui vous ouvre la bénédiction dans votre propre vie. Amen. Et je termine maintenant. Acte 13, cinquième caractère ou cinquième qualité, il est récompensé par le Seigneur. Voilà, il est récompensé maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Acte 13, verset 1 à 4. Acte 13, qu'est-ce qu'il est maintenant? Il devient missionnaire. Dieu l'envoie maintenant. Acte 13. Barnabas, donc, il y avait Antioche, des prophètes, des docteurs. Barnabas était là, Simon, Siméon et tout cela, donc. Et ensuite, il est dit, pendant qu'il servait le Seigneur dans le ministère, et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les appelais. Et ensuite, au verset 4, Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Voilà maintenant, la promotion de Barnabas. Il est récompensé par le Seigneur. Il l'envoie dans le monde entier. Il devient un ambassadeur, il devient un missionnaire. C'est comme si Dieu disait, mais un homme comme ça, je ne peux pas le garder ici, c'est pas possible. Un homme avec un tel caractère, un tel reflet de la personne du Seigneur, avec un tel esprit d'obéissance, il faut que je l'envoie dans le monde entier pour que mes autres enfants voient la grâce de Dieu dans sa vie et qu'ils se convertissent au Seigneur Jésus. Alléluia! Il a commencé lévite et il a fini missionnaire, ambassadeur. Quelle promotion! Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Amen! Dieu vous enverra aussi, peut-être pas jusqu'aux extrémités de la terre, mais il vous enverra. Il vous donnera une mission. Il vous donnera quelque chose à faire. Vous serez envoyé par le Saint-Esprit, peut-être de l'autre côté de la rue. Avant d'aller de l'autre côté des océans, Dieu vous enverra de l'autre côté de la rue. Dans la maison d'en face. Ça, c'est le Saint-Esprit qui vous enverra. soit dans un autre champ, aux extrémités du monde, soit dans la maison en face, soit chez le voisin. Le Saint-Esprit est là. C'est une promotion. Il devient ambassadeur. Que Dieu nous aide à avoir ces belles qualités, n'est-ce pas vrai? Quelle belle qualité. Voilà ce qui a, je crois, réjoui le cœur du Seigneur et des apôtres. Et non seulement des apôtres, mais partout où il allait. Barnabas réjouissait le cœur des chrétiens. Alléluia! Qu'il en soit de même pour nous. Fils d'encouragement, d'exhortation, de consolation. Que Dieu fasse de nous des Barnabas. Pour la gloire de son nom. Amen.